Bonjour Manu Larsenet.
Bonjour madame.
Comment adapter Cormac McCarthy et ce livre mythique La Route ? Le défi ne semble pas simple à relever. J'ouvre donc votre album. Il y a 4 cases. Dans chacune est représenté un nuage noir de poussière dont on imagine qu'il charrie la cendre dont il est beaucoup question dans toute cette histoire. Il n'y a ni personnage ni texte. Est-ce que vous avez mis du temps à arriver à cette première page ?
D'abord, il y avait une introduction qui en faisait une vingtaine. Dans le livre, il commence par un cauchemar.
Ouais.
Il parle d'une grotte et tout ça. Et j'avais fait une sorte de version étendue de ce cauchemar, hein, où il était avec son fils et il voyait des créatures et tout, puis après on arrivait dans la vraie histoire. Et puis pour des raisons éditoriales, on va dire, cette partie a sauté, mais je voulais quand même, c'est dur de commencer
c'est
un livre.
Ça.
Donc du coup, comme Cormac McCarthy à aucun moment dit ce qui s'est passé, mais il parle de la cendre en permanence, je m'étais dit tiens, je vais mettre des volutes volcanique ou d'explosion, donc c'est des fumées noires qui s'élèvent. Ça me paraissait être assez poétique pour commencer quelque chose qui allait être très noir.
La Route a été publiée en 2006, mais il est presque déjà un classique de la littérature. Il a reçu le prix Pulitzer. Un film a été tiré en 2009. Vous en faites donc une adaptation BD. À quel moment vous avez décidé de vous y attaquer ?
Ça a été un hasard complet. J'étais parti pour adapter un tout autre roman et on n'a pas eu les droits. Ils n'ont même pas répondu, pour tout dire. Donc du coup, je traînais au studio graphique de Dargo et Adrien, le boss du studio, m'a dit « Mais t'as lu La Route ?» Je lui dis « Oh non, ça me saoule. » Et puis quand même, je l'achète le soir à l'hôtel, puis je commence à le lire. Alors j'ai des problèmes de lecture, je peux pas me concentrer plus de 20 minutes. Donc j'ai mis longtemps à le lire, et puis à chaque fois je me disais, mais ça je peux le faire, ça je peux le faire, ça je peux le faire. Et ce qui m'a décidé, c'est toujours la même chose. Quand j'adapte un roman, ce qui me décide, c'est l'ambiance. Là, il y a de la cendre, il y a de la poussière, c'est humide, tout est cassé. Tout est défiguré, tout est sordide.
Donc ça a convoqué des images tout de suite en vous ?
J'ai tout de suite vu comment je pouvais faire. Après, ça a été plus compliqué pour mettre ça en marche. Mais c'est là où j'ai eu envie de le faire. C'est quand j'ai me suis fait une idée mentale de l'ambiance qu'il y avait dans tout le livre.
Et Cormac McCarthy a dit oui.
Je suis pas sûr que ce soit vraiment lui qui ait dit oui. On va dire que c'est son agent. J'ai même fait, pour la première fois de ma vie, une lettre de motivation.
Ah oui.
Parce qu'on était plusieurs sur le truc. Alors moi, j'avais dit, quand j'ai su qu'il y avait d'autres gens, j'avais dit non, laisse tomber, Claude, on laisse tomber. S'il y a d'autres gens, c'est bon. Puis lui, il m'avait dit non, faites votre lettre de motivation quand même. Et puis j'ai fini par l'emporter. Mais en même temps, mon éditeur est aussi l'éditeur de Cormac McCarthy. Donc je me demande s'il n'y a pas eu renvoi d'ascenseur.
Je vous ai entendu dire que vous n'aviez presque jamais fini d'autres romans après avoir découvert Voyage au bout de la nuit de Céline. Donc La Route, pour le coup, ça a fait exception. Vous avez réussi à aller au bout.
Bah, c'est-à-dire que en lisant La Route, j'avais lu deux romans, donc un qui s'appelait Tideland, que je voulais absolument faire et on n'a pas eu, et La Route. Donc ceux-là, je les ai lus sur 5 ou 6 semaines. Ça va, c'est faisable. Mais c'est vrai que j'ai pris... En fait, j'étais un imbécile. J'écoutais mes amis d'extrême-gauche qui disaient « Ah, Céline, faut pas lire Céline, t'es un collabo, machin. » Puis à 30 ans, je me dis quand même, je vais faire un effort. Ça m'a pris 3 années pour lire Le Voyage. Et j'étais... passionné, non seulement par le style, mais aussi par l'ambiance qui s'en dégage, par la noirceur, par... C'est un livre sans espoir, il n'y a pas d'espoir, jamais. Comme dans La Route.
C'est ce que j'allais dire, là on n'est pas massivement dans de l'espoir non plus.
J'aime le désespoir, c'est quelque chose que je connais, j'ai été dépressif tellement de fois que ça c'est même plus drôle, donc je connais ça, et j'aime pas les gens qui, prétextant un désarroi, finissent par te faire une happy end à la fin. Je déteste ça. Quand on parle du désespoir, il faut parler du désespoir, il faut pas le romancer, il faut pas... Dans plein de films, dans plein de livres, j'ai lu ça, c'est stupide. Là, dans Cormac McCarthy, il n'y a pas d'espoir à aucun moment. Lui, il en met un tout petit peu, je me suis d'ailleurs acharné à l'enlever à chaque fois, puisque j'ai enlevé toutes les références à Dieu, je crois. Et puis à la toute fin, j'ai enlevé une scène où il y avait un léger espoir. Je trouve que c'est un roman sans espoir, il n'y a pas de honte à pas avoir d'espoir, et quand on raconte ce genre d'histoire, il ne faut pas mentir aux gens en disant « ça va aller mieux après ».
Au centre du livre et de votre BD, donc, il y a de nombreux thèmes. Ce qu'il reste de l'humanité quand elle a presque disparu, comment être un enfant dans un monde qui n'en compte presque plus, la relation entre un père et son fils, l'exil. Qu'est-ce qui vous parlait, vous, dans tout ça ?
C'est vraiment graphique. Je suis désolé d'être énervant avec ça, mais c'est encore l'atmosphère. Tout le reste, je me reconnais pas dans le père, par exemple. Moi, si je devais vivre ce qu'il vit, j'étreindrais mes enfants. À aucun moment, il l'étreint. C'est très rare. En fait, il lui explique comment il va devoir survivre dans ce monde-là, et j'ai l'impression qu'il lui passe une sorte de relais. Il l'éduque à une dureté incroyable. J'ai pas pu me projeter dans le père, j'ai pas non plus pu me projeter dans l'enfant, parce que je suis trop vieux, hein. Et c'est la première fois, je crois, que je me suis jamais vraiment projeté dans aucun des personnages.
Alors c'est très elliptique cette histoire, les personnages n'ont pas de nom, on ne sait pas ce qui s'est produit. C'est quoi votre thèse à vous? Vous vous êtes raconté une histoire?
Non.
Pas du tout.
Non.
Pas besoin.
Il y a un moment, simplement, il dit qu'il y a des rochers concrets, des sortes de sillons dans la route. Donc moi, je m'étais imaginé que ça pouvait être un volcan. C'est pour ça que j'avais repris l'idée de la fumée. Mais c'est surtout la sang. Puis en fait, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le désespoir. C'est un livre sur le désespoir. C'est deux perdus qui font une sorte de road movie dans un paysage qui en est plus un. C'est la beauté de l'ignoble, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aime cette beauté-là.
Alors, vos dessins sont sublimes, entre noir et blanc, gris, une sorte d'orangé parfois. Il y a des visages marqués par la souffrance avec cet enfant qui a quasiment l'air parfois d'un vieillard, les corps décharnés qui peuvent rappeler ceux des camps de concentration, par exemple. Comment vous avez travaillé pour arriver à ces images-là?
Pendant des mois, j'ai consulté des photos sur Internet. Alors, j'avais commencé par les bombardements... pour voir comment un peu une ville se détruisait, comment les bâtiments tombaient et tout ça. Et puis après, j'ai dérivé sur les camps de concentration.
Ah d'accord,
pendant
donc il y a
des semaines entières, j'ai vu des charniers, des horreurs. Pff, ça a été hyper pénible de faire la préparation. Et puis une fois que j'ai commencé, soudain, c'est comme si je m'emparais de ces horreurs et que j'en faisais quelque chose de poétique. Alors c'est très prétentieux, mais c'est exactement ça.
Et je crois que ça allait vite au final, parce qu'un an et demi de travail, ça paraît vraiment pas beaucoup pour faire pour s'attaquer à ce mastodonte.
En fait, j'ai pas pris de vacances, j'ai pas pris de week-end, j'ai fait que ça tout le temps, en bossant à peu près 7 heures le jour et 4 heures la nuit.
Ah oui.
Tout le temps. Parce que je suis comme, à toute proportion gardée, comme Glenn Gould, vous vous rappelez, le pianiste, qui disait, quand je pars 3 jours, je mets 3 semaines à retrouver mon niveau. Enfin, il parlait pas de son niveau, mais... Eh ben moi, je perds le fil. Quand on raconte une histoire, surtout une histoire comme ça, qui est très tendue, et qui joue sur des détails, des petites choses, il faut pas perdre le fil. Or, si on part en vacances, ou si on va à la piscine, ou j'en sais rien, forcément, on pense à autre chose. Donc moi, j'ai pris le parti de celui-là, je savais que ça serait dur, et je l'ai fait d'un bout à l'autre, sans repos, sans rien. Ça a été infect, je le ferais sans doute plus. Mais en même temps, j'ai appris énormément, j'ai vraiment appris des choses... sur moi-même en tant que dessinateur et sur moi-même en tant qu'adaptateur, parce que je n'ai utilisé que les dialogues, et il y en a très très peu. Donc il n'y a pas de texte off, il y a très peu de mots, c'est la bande dessinée.
D'accord, c'est le seul mot qui est le mot d'accord.
Ouais. Il dit toujours, voilà. Et je n'avais pas compris la difficulté que ce serait au début.
On a l'impression qu'il y a quasiment un côté schizophrénique dans votre œuvre, tantôt des albums très noirs comme celui-ci, d'autres plus bavards, très drôles, avec des petits personnages à gros nez. On a du mal à croire que c'est le même auteur derrière. Est-ce que vous trouvez votre équilibre dans ces contrastes-là?
Ah oui. Chaque fois que je finis un album suicidaire comme celui-là, noir et intense, je fais un album d'humour. Mais au fur et à mesure des années, je m'aperçois que les albums d'humour, je les fais de manière aussi intense que les autres. Simplement... c'est un tout petit peu moins chronophage, parce que ça fait plus longtemps que je fais de l'humour, donc j'ai mes repères. Mais je peux pas enchaîner deux routes.
Oui,
donc il y a un moment donné, il faut faire autre chose. Mais par contre, surtout, je veux continuer à dessiner, parce que moi, je suis pas un virtuose. Je me rappelle, un journaliste avait écrit, pour se moquer de moi, il avait dit que ça puait la sueur, ce que je faisais. Et au début, j'avais pas vu l'insulte. Je m'étais dit, bah ouais, je sais, ouais, je bosse. Mais moi, c'est mon truc, je suis né pour ça. Il y a que là-dedans que j'ai trouvé... je suis jamais aussi bien qu'à ma table, jamais.
Et alors maintenant qu'il est terminé, qu'il sort cet album, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en êtes un peu fier?
Non. Non, j'attends de voir ce que les gens vont... C'est bizarre, parce que la bande dessinée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on présente quelque chose, alors quand vous venez me voir, je suis vachement flatté, vous êtes gentil et tout, mais si ça se vend à 15 exemplaires, je saurais que j'ai foiré. Alors, je sais que c'est pas forcément ça, parce qu'il y a des livres qui se vendent très peu, qui sont magnifiques. Mais moi, la bande dessinée, je la conçois un peu de manière classique, et je me dis, si les gens adhèrent pas, je le saurai très vite, quoi. C'est que j'aurais foiré mon coup. Parce que mon but, c'est quand même de la communication, c'est quand même dirigé vers l'autre, la bande dessinée. C'est pas, j'ai pas été exposé à Beaubourg, moi, donc il faut que mes livres touchent les gens. Et voilà, on verra si ça...
Je pense qu'il n'y en aura plus que 15.
J'espère.
Ouais. Question subsidiaire pour en venir à Céline. Vous pourriez un jour vous lancer dans l'adaptation du voyage?
Non. Tardi l'a illustré de manière incroyable. Et c'est trop long. Imaginez faire ça, c'est énorme. C'est
livre... 4 ans sans partir en vacances.
Voilà. Je crois que j'ai plus la moelle pour faire ça. J'aurais aimé, hein. Mais en plus, c'est Céline. Il y aurait encore des bazars avec l'idée antisémite, machin. C'est encore un truc. Dans ce moment-là. Dans cette société-là, je crois que c'est pas le bon moment pour faire ces lignes. Il y aurait trop de conneries parasites.
Manu Larcenet, vous réussissez le pari de vous emparer d'un très grand livre pour en faire un grand album. La route d'après Cormac McCarthy, apparu chez Dargaud. Merci beaucoup.
Merci, madame.